A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
C'est un artiste agressif au cœur d'artichaut. Chuck One est son nom de graffeur. Pionnier du graffiti né au milieu des indépendantistes guadeloupéens, on lui doit une esthétique urbaine, mais on lui doit aussi de mouiller le maillot et les pinceaux pour la mémoire. Si j'osais, je vous embarquerai tous à Pointe-à-Pitre jusqu'au Memorial Act, c'est-à-dire le centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage, autrement dit le premier musée de l'esclavage. Chuck One y a signé une fresque monumentale intitulée « L'histoire en marche » qui retrace l'épopée de Louis Delgrès et Joseph Ignace. Chuck One en a aussi conçu un projet inédit, Memorial Act 1 et 2, premier vinyle connecté pour la mémoire de l'esclavage, lisible sur une platine, un smartphone ou même une application. Et oui, en sol majeur, fouille encore dans les cales du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Trou de mémoire, s'abstenir. Bonjour Chuck One.
Bonjour Yasmine.
Vous avez 45 ans, Chuck.
Oui, vous êtes 48 exactement.
48 hein.
Oui, oui. Ah, j'aime
êtes,
bien mon âge.
Vous êtes très vieux.
Oui, j'apprécie en plus parce que mon âge va avec ma bonification dans les idées et dans l'acte plastique.
Vous êtes guadeloupéen, 48 ans. Vous avez mis combien de temps à connaître votre lien avec l'histoire de l'esclavage?
Oh, ça s'est fait très rapidement, dès l'âge de 9 ans. J'étais souvent accroché aux jupons de ma grand-mère Solitude, dont ce nom porte une forte connotation, et puis une épopée en Guadeloupe, et cette Solitude désirée bourguignon, nom de mon grand-père, à travers nos balades en ville, me ramène vers la sécurité sociale, puisque c'est un lieu très particulier derrière le stade de Bergevin, et c'est là en 1979 que je commence à découvrir les premières écritures qui m'interpellent.
D'accord, on va raconter cette histoire. Vous nous dites pourquoi Moon Rivel, qui est une belle brune, grande dame de la chanson créole, se retrouve au milieu de vos pochoirs?
Ben parce que c'est des chansons qui m'ont bercé déjà, et puis c'est des choses que j'écoutais dans une émission très connue des grandes personnes, parce que je dis souvent, moi j'ai grandi, j'ai été éduqué à Pointe-à-Pitre avec des gens qui sont déjà morts. Et Moon de Rivel, qui était dans l'émission en temps longtemps, à 14h à Pointe-à-Pitre tous les samedis, c'était avant que j'aille au foot, où je devais faire danser mes grands-parents.
Ah bon? C'était voilà. Obligatoire?
Non, c'était une passion.
Amen.
Hip-hop qui danse Begin sur RFI pour un sol majeur, c'est Chuck One. Info ou un tox, vous dansez la Begin ou pas?
Ah ben oui, le fait de danser avec mes grands-parents, c'est comme si je me remplissais d'une bibliothèque ou je me nourrissais de quelque chose que je peux pas mettre en mots dessus. C'est un peu comme les mots sous les émotions, je trouve ça très faible. Ça se vit.
Ouais, bah, il bandé.
Il bandé? Il bandé, bah, tout le monde?
Pas de monde. Allez, bonjour.
Encore un monde de la vie vivante. Encore un monde.
Vous reconnaissez quoi alors de votre pointe-à-pitre, Chuckwan?
Plein de choses. Les joueurs de domino qui disent qu'ils bandaient pour tout le monde. C'est-à-dire que la partie n'est pas évidente. Personne ne se détache. Et puis la partie un peu plus traditionnelle, plus roots, qui dit Diabla, Kaisha, Yeyo, c'est que on est dans une transe, on est dans un voyage, on n'a pas envie que le mal emporte nos enfants. C'est comme quand on parle des ouragans. Les ouragans, quelque part là-bas, c'est les ancêtres qui nous aident aussi à nous débarrasser de tout ce qui nous stigmate. Les ancêtres qui reviennent pour nettoyer le sol, qui reviennent pour nettoyer la terre avec leur mouvement, avec l'élément naturel qu'ils ont, avec la force. On essaie de vous libérer.
Alors il y avait donc des expressions créoles, il y avait du gros cas, il y avait l'ambiance dans les cases avec la pluie.
Oui, complètement.
Mais vous vous souvenez aussi du bruit des voitures abandonnées?
Ah oui, complètement. Des épaves, mais c'était des voitures inutilisables en métropole. Comment on peut se débarrasser? Les colonies. Vous savez, il y a un système qui a été mis en place et indirectement, directement, il se répétait par des gestes conscient ou inconscient dans différentes branches.
Jay.
J comme je me souviens.
Vous êtes né en 73 à Pointe.
Non, 70. Vous
c'est
voulez
fou,
me rajouter?
Oui, je veux. Vous êtes
1970.
Un enfant.
1970. Je suis un enfant de l'époque Hendrix aussi. Je suis un éponge, on va dire, comment dire ça, le Black Soul.
Vous êtes donc né en 70 à Pointe-à-Pitre.
Oui.
On est d'accord. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes récupéré à la DAS?
Je ne veux pas dire que je m'en souviens, mais en tout cas, dans la suite de ça que je m'en souviens, c'est le fait d'avoir traversé Pointe-à-Pitre pendant ce cyclone avec ma grand-mère, 1973. Et puis cette période, c'est marrant parce que je suis né dans le ghetto de Pointe-à-Pitre qui s'appelait Boissard. Ils appelaient ça en créole Kachimé à Locola. Ensuite, c'est un quartier très dur, très fort, mais où il y avait les battements des portes. Et on profitait d'un battement de porte pour s'échapper de la maison. Même en ayant 2-3 ans pour traîner dans la boue, machin et autres. Et puis il y a l'histoire de la locomotive. Quand on entendait cette locomotive arriver, cette bête métallique, quand je dis bête métallique, c'est pour dire elle passait dans toutes les usines et ramenait la canne à l'usine d'Arboussier, qui est aujourd'hui le Memorial Act. Mmh. Et cette bête, elle arrivait au loin, elle faisait bouger les maisons, les portes, tout, et c'est comme une transe, c'est comme une... Il y avait une forme de cérémonie vaudou. Et donc du coup, tous les enfants sortaient et essayer de monter sur cette bête. Beaucoup en ont laissé des jambes ou des membres, mais en tout cas, on avait un rapport très particulier, très pervers à cette bête. On voulait la dominer.
C'est quoi votre vrai nom?
Bourguignon Francky.
Pourquoi vous vous appelez Chuckwan?
Ben parce que j'étais dans le métro, je taguais, et j'ai commencé à taguer Crawl, K-R-O-2-L. Un matin comme ça, j'ai voulu changer de nom et j'ai décidé d'écrire Chuck avec un S. Mais convaincu, parce que je ne voulais pas l'écrire avec Chuck, le C. Et c'est quelques années plus tard, Loulou, une copine anglaise, me ramène Le Peuple du Blues, un bouquin de Leroy Jones, et me dit « Voilà ta destinée ». Et dans ce bouquin, le refrain repris par les esclaves dans les champs de maïs et dans les champs de coton, Chuckalong, Chuckalong. Et je lui dis, ben je savais qu'en étant dans le métro, j'étais encore une fois connecté avec ces rames, avec mon terrain de prédilection très tôt dans le mouvement graffiti. Et ce Chuck qui m'a permis de décortiquer la symbolique du nom, m'a permis aussi non seulement de fouiller aujourd'hui dans toutes les mémoires que je veux faire revivre.
Restons une seconde sur cette enfance à Pointe-à-Pitre, où vous grandissez dans une famille apparemment éclatée, mais pleine d'amour.
Ah oui, surtout mes grands-parents.
Mantitine, qui est votre arrière-grand-mère,
ouais.
Désirée Solitude, à laquelle vous rendez hommage
je
régulièrement.
Je vois que vous avez bien retenu.
Votre grand-mère, Gontran Gentil, ce grand-père ferrailleur qui travaillait au gosier, un grand-père mulâtre, d'ailleurs.
Oui.
Alors la question de la couleur, comment vous la vivez au quotidien dans ce Pointe-à-Pitre des années 70?
Alors, moi je la vivais dans une telle indifférence parce que j'étais complètement absorbé par ce multiculturalisme et par des parents, je dis bien mes grands-parents, d'une composante très diverse, mulattes, blancs, noirs et autres. Donc moi personnellement, quelque part, en étant favorisé...
Vous êtes clair de peau,
oui,
vous. Hein.
Je ne restais pas dans la catégorie des clairs. J'aimais la couleur dont on parle, qui reflète l'obscurité, la noirceur. J'ai la peau claire et j'ai l'âme ou l'intérieur noir complètement. Et c'est ce que je recherchais, puisque ma grand-mère, j'étais toujours avec elle. Mais je n'avais pas de souci de ça. Au contraire, je combattais rapidement, très tôt, ce genre d'a priori.
Ministre à la justice,
il avait mes ailes, il gardait derrière.
Ministre des Outre-mer,
il avait mes ailes, il gardait derrière.
La sang la poule,
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 la sang la poule, la sang la poule, la pour juger nous.
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 La sang la poule, la pour juger nous. La sang la roule,
la pour juger nous.
Aucune fête à Lyon, est souqué, jugé en Réunion. Aucune fête en Guyane, est souqué, jugé à l'île Maurice. Aucune fête à Toulouse, est souqué, jugé Clermont-Ferrand. Si crime la fête la pointe, ou qui ça, ou plaît, jugé Paris.
Qui est les responsables?
Il avait mes ailes, regardez derrière.
Il est ministre de la justice.
Il avait mes ailes.
Il est président.
Il avait mes ailes, il gardait derrière.
La sang la coulé.
La sang la coulé.
Vas-y, la sang la coulé.
La sang la coulé.
Mais la sang la coulé.
La sang la coulé. La sang la coulé. La pour juger nous.
M. Comme.
La sang la coulé. La pour juger nous.
Mot de la tribu.
Comme un trait d'union hein, entre quelque chose qui appartiendrait à la grotte et au troisième millénaire. La sang la coulé pour juger nous. Que vous rappellent ces slogans créoles, Chekwan ?
Ah ben, je dirais tout de suite à la tête, j'ai mai 67. En Guadeloupe, ça se passe. Pourquoi nous sommes un département français ? Pourquoi nous ne sommes pas considérés ? Ça part de quoi, mai 67 ? Là, s'en a jugé, c'est la pouge. Là, s'en a coulé, c'est la pouge. Jugez-nous. Et c'est vrai.
Mais il y a dans votre histoire ce moment gravé, donc très tôt, à l'âge de 9 ans.
Ouais.
Vous voyez, vous lisez sur les murs de Pointe-à-Pitre des slogans en créole.
Ouais.
Racontez-nous ça.
Parce que ça m'interpelle et je me souviens, quand je passe à l'âge de 9 ans sous ce soleil accablant et je vois ces mots tracés avec la bombe, pas vini, pas ritourné, laissez pays en nous, Guadeloupe c'est en nous, pour dire, on n'a rien demandé, on a accueilli, on a souffert, on a presque été exterminé, et puis malgré notre résistance, on veut nous faire courber les chines.
Mais alors, vous avez une réaction, ça suscite ces slogans en créole sur les murs de la mairie de Pointe-à-Pitre.
Oui, de la mairie, des institutions publiques.
Ça suscite une réponse de votre part. Moi, ce que j'ai comme image, c'est vous, gamin, Chekwan, vous ne vous appelez pas encore comme ça, et vous êtes dans une espèce de provocation, si j'ose dire, poétique politique, puisque vous lisez du Pablo Neruda, c'est ça ?
Oui, voilà. Ouais.
Devant la mairie de Pointe-à-Pitre.
Oui, mais alors, si on peut appeler ça une provocation politique, être chez soi et lire ce qu'on a envie, à quelle démocratie que je me réfère ?
Mais bien sûr, mais si vous le faites...
Ben, si je le fais, c'est parce que je le fais en mon âme et conscience, en me disant...
C'est que vous êtes animé par une certaine indignation, une certaine colère.
Mais le fait de lire ces textes m'a propulsé dans un autre monde aussi, et m'a permis de m'affirmer. Alors, si moi, vous me considérez comme une race, j'en ferai de cette race une affirmation, et la provocation qui va avec, c'est une provocation pour dire, nous avons des mots à dire, écoutez-les, sinon la confrontation, ce sera sur des millénaires.
Alors vous allez adhérer, peut-être pas tout de suite, mais au mouvement indépendantiste, en tout cas vous allez être proche d'eux, vous allez observer tout ça. Vous commencez finalement à mettre le nez dans les dossiers qui fâchent, celui de la colonisation, celui de la France-Afrique aussi, avec dans les têtes le tandem bien connu de Gaulle-Focard.
Mais quoi ? Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités, c'est en les prenant pour base
ainsi que le font comme nous 11 républiques africaines et la république malgache.
Je reconnais que les relations que je me suis créées avec des commerçants européens, avec des industriels en Afrique,
que nous constituons avec elles un libre et amical ensemble pratiquant à l'intérieur de lui-même des relations étroites
avec des Africains de toutes catégories,
nourris de culture française, soutenant le même idéal, prêts à une défense commune.
Les chefs d'État africains constituent un réseau.
La communauté nous renforce tout en servant.
La vie, c'est De Gaulle et l'Afrique.
La raison et la fraternité.
Chakwan, quand vous réentendez en sol majeur sur RFI la voix d'un De Gaulle ou d'un Jacques Foccart, qu'est-ce qui vous remonte ?
Moi, ce qui me remonte dans le sens contraire, c'est mes années 80, 87 à Pointe-à-Pitre, tout ce mouvement indépendantiste, quelque part, qui voit qu'on est en train de les... Comment dire ça ? Il n'y a même pas de terme pour utiliser pour un mec comme Foccart au pied de... En deux mots, c'est qu'on savait que l'ennemi était à l'intérieur.
Alors, donc, l'ennemi de l'intérieur, ça veut dire quoi ?
L'ennemi de l'intérieur, c'est que, quelque part, ces gens n'avaient pas leur place dans cette île.
Alors,
que,
ces gens-là, c'est les béquets,
parce que là, on parle d'hommes politiques avant de rentrer dans des cases, dans des béquets ou autres. Et ces gens-là, c'est des gens qui voient l'homme noir comme un animal, qui sont restés à la considération du code noir.
Le noir, dans la tête d'un Pierre Belotte, donc préfet de la Guadeloupe, oui. Guadeloupe, dans ces années-là, est toujours un bien meuble.
Ah ben, complètement. C'est un arriéré. C'est un sauvage, c'est-à-dire, à la moindre altercation, il y a aussi le matraquage des gens du peuple. Il y a des interventions musclées, il y a des interventions répréhensibles d'un autre monde. Il y a aussi ce regard hautain, ce regard dénigrant, ou ces attitudes.
Mais au-delà de ces choses qui sont presque de l'ordre du subtil,
oui,
il y a concrètement...
Du subtil, quand vous les avez en face,
oui, oui,
je vous dire...
Mais il y a les regards, ouais. Mais il y a aussi les richesses qui sont concentrées entre les mains.
Les richesses, bien sûr. Alors, ces richesses qui sont concentrées dans le sud de l'île, surtout en Basse-Terre. Parce que la Basse-Terre est devenue une partie carrément blanche de l'île. Quand je dis blanche, pourtant, j'ai pas de problème, moi, avec... je suis quand même quelqu'un de très ouvert, j'ai beaucoup voyagé. Je me suis toujours battu pour une Guadeloupe multiculturelle et melting race. Mais le problème, c'est que quand vous voyez que malgré vos efforts, il n'y a pas d'avancée, les gens sentent quelque part qui sont freinés, qui sont haïs chez eux. On se dit, mais attendez, on a été exterminés, on a vécu la colonisation, la départementalisation. Il y a un problème, c'est que non, on veut vous voir raser le sol. Restez à l'étape où on vous a laissé depuis les cales des bateaux. Et c'est de là, toutes ces choses, même dans ce Pointe-à-Pitre, je m'en souviendrai toujours. Parce que, à la suite de mai 67...
Alors, mai 67, ce sont des émeutes qui démarrent suite à une altercation de la part d'un propriétaire blanc et militant au parti gaulliste, un parti de droite radical,
ouais.
Qui ironiquement dit à un vieux cordonnier noir handicapé qui est en train d'installer son étal juste
comme
en face
il le faisait à l'époque
de ce commerçant blanc, il lui dit... Il dit à son chien, dis bonjour aux nègres.
Voilà.
Et donc cet incident raciste est donc à l'origine d'émeutes et de grèves à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre.
Pendant que la France est en pleine expansion démographique, les choses évoluent en métropole et les choses s'obscurcissent dans les Caraïbes, dans les Antilles, plus particulièrement en Guadeloupe. Donc les ouvriers du bâtiment redemandent une considération, une revalorisation salariale qui était rien du tout par rapport à ce qui se passait en métropole. Et puis, je crois que surtout aussi, pour revenir à mai 67, Foccart a pris peur devant les indépendances africaines qui s'enchaînaient. En plus, nous voilà qui perdons nos Antilles. Et devant ça, la répression policière, le dernier massacre de la 5e République.
Nation.
Attention à la marche en descendant du train. These are the gap between the train and the platform.
Attenzione al gradino scendendo dal treno.
Et comme étrange étranger.
Alors voilà que l'étrange Chakwan débarque en métropole, puisqu'on l'appelle comme ça en 1984.
Oui.
J'ai tout bon là sur la date.
Super.
Vous faites vos armes tout de suite de graffeur dans le métro. Et il paraît qu'à l'époque, vous qu'on surnomme déjà le King of Subway, le roi du métro, on vous retrouve régulièrement sur la ligne 2, 9 et 13. J'aimerais bien que vous décriviez un tout petit peu les tags que vous faisiez à l'époque, époque où vous fondez DCM,
oui, pour DCM.
Délire Copain Mortel.
Au début, le groupe s'est créé sur la base de Délire Copain Mortel.
C'est pas mal comme ligne artistique, ça, je trouve,
oui,
parce qu'il y a déjà quelque chose. Hein. Mmh. On est à la fois dans la fraternité avec les copains, on est aussi dans la folie avec le délire, ouais. Et puis on est peut-être dans quelque chose d'urgent.
Oui,
avec le côté mortel.
Tout de suite.
C'était quoi la ligne artistique, on va dire ?
La ligne artistique, c'était la calligraphie. Et cette calligraphie, il fallait personnaliser. En fin de compte, du tag qui partait, basiquement, qu'on n'avait pas cette puissance encore, cette rage d'écriture, au fur et à mesure d'enchaîner ces tags, on trouvait son propre style à soi.
Et c'était quoi, vous ?
Ah ben, moi, c'était mes lettres à moi que j'ai créées, ma signature d'ailleurs, que vous venez de voir, sur le fameux vinyle connecté.
Comment voilà, vous
l'avez stylisé ?
Alors, c'est-à-dire ?
Alors, des écritures qui ont mouvement, qui ont une danse et qui...
Vous dansez avec la main, c'est
voilà,
bien.
Exactement. Ouais. Complètement. Et c'est marrant parce que je fais le mouvement au studio, mais c'est très symbolique. C'est toujours rester dans le rythme et l'élégance en même temps aussi.
Mais vous croyez en un geste, dites-vous, agressif?
Oui, parce que le tag, il était puissant et agressif sur le mur. Même s'il avait beaucoup de style, on voyait que la façon qu'il avait été marqué... tracé et autres, c'était une façon pour dire je rends au système ce qu'il m'a donné.
Alors j'imagine, Chokwan, votre colère intérieure lorsqu'en 2007, Nicolas Sarkozy, avec son ministre Brice Hortefeux, rapproche deux concepts, celui de l'immigration et celui de l'identité nationale.
Bouton, tu barbouilles notre mur, on va te barbouiller les fesses.
Pourquoi t'aimes pas l'art moderne? Face de fiole, carrément, faudra vous y faire.
Moi, je suis le ministre des immigrés légaux, de ceux qui veulent apprendre notre langue, de ceux qui partagent nos valeurs.
À partir du moment où on ne se donne pas la peine de réfléchir à c'est quoi la France, c'est quoi être français, c'est quoi l'identité de la France.
Ceux qui respectent les lois de la République, ceux qui travaillent et ceux qui veulent travailler.
À quoi voulez-vous que ceux qui arrivent puissent adhérer puisqu'on ne leur dit pas qu'il y a quelque chose à adhérer?
Alors ça passe par le contrat d'accueil et d'intégration que désormais on signe déjà depuis quelques temps.
Donc je veux clairement lier l'immigration qui va venir, l'identité qui est la nôtre, pour dire à ceux qui vont venir qu'ils doivent adhérer à des valeurs.
Et puis demain, ça sera dans le cadre de la loi du regroupement familial, eh bien le contrat d'accueil et d'intégration pour les familles.
Mais valeurs sur lesquelles nous ne sommes pas prêts à transiger. Alors pourquoi un ministère?
C'est un objectif d'une meilleure intégration pour ceux qui en ont réellement la volonté.
Ben, tout simplement parce que je veux relancer le système d'intégration à la française.
Est-ce que ça donne envie de reprendre un peu la bombe aérosol, Chokwan ?
Ah ben moi, à ce moment-là, ça m'a donné envie de le reprendre. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Mais 2007, quand le ministère de l'Immigration et de l'Identité Nationale est créé, moi, ça me donne tout de suite l'idée de monter au front, de créer un manifeste. Donc on rentre à nouveau dans la subversion. Dans ce contexte, je rappelle la longue histoire par une série d'œuvres de l'anthropologie raciale et aux techniques de classification du genre humain, comme celle de l'époque du fichage. Et puis, ce qui est marrant, c'est que l'anthropologie judiciaire, première pièce que je crée, une pièce bleue, mais d'un bleu qui rappelle un univers un peu bizarre, parce que vous ne savez pas vraiment si c'est un bleu qui vous éclaire ou qui vous dirige vers une obscurité.
Oui, c'est les fonds marins.
Ouais, c'est les fonds marins, mais pour des abysses, pour ceux qui ne veulent pas vous voir sur la Terre.
Mm-hmm.
Donc, quelque part, restez cachés.
Mais il n'y a pas que du bleu sur cette toile que vous intitulez
non.
Anthropologie judiciaire.
Non, il y a toute une recherche scientifique de termes, d'équations, de gènes que j'ai voulu remettre à la surface et tout un nombre, comme vous voyez, des identités et des têtes, des traces, des corps, toute une série de détails qui nous rappellent une période pas si loin que ça dans notre histoire. Et dans notre robe, juste à côté de chez nous.
Et ce ne sont pas des détails de l'histoire, mais vous vous amusez avec notre œil, parce que votre tableau, je l'ai regardé, il ressemble beaucoup à un monochrome.
Oui, parce que je me suis dit, pourquoi je mettrais beaucoup de couleurs ?
Faites croire à la pureté de la couleur, c'est ça
oui,
que je veux dire.
Oui, je fais croire au monde à la pureté de la couleur, pour montrer au monde que la pureté de la couleur, pourquoi elle doit déranger ? Pourquoi elle dérange, même, je dirais.
Alors les mots sont parfois des frères et sœurs, puisque vous êtes un homme de mots, Chokwan.
Oui, enfin...
Ou des cousins germains aussi.
Oui.
Par exemple, le cousin d'immigration, c'est migration.
Oui.
Et sur cette thématique, vous avez commis, je le dis avec humour bien sûr, une œuvre intitulée « Empreinte en centre de rétention ».
Voilà.
Alors c'est quoi ça? Il faut nous donner l'image, hein, Chuck Wan.
Oui, je vais vous donner l'image. C'est que je trouve un journal qui parlait des centres de rétention en Suisse. Et c'est de là que j'ai commencé ce travail, après avoir vu les images aussi de Lampedusa aussi. Et c'est pour moi, c'est une incursion dans la bestialité. Comment recevoir les autres? Comment ceux qui nous recevaient chez eux, quand je dis recevoir, qu'on leur imposait une forme de domination, je suis gentil quand je parle de recevoir, on va...
Vous réécrivez l'histoire.
Voilà, je réécris l'histoire, voilà. Et c'est ces gens-là qui nous ont ouvert leurs portes, qu'on a pillé, volé et autres, et... J'ai voulu faire une incursion dans la considération qu'on avait de ces gens-là quand on les mettait en centre de rétention. Tout le côté morbide, sale, les traces, la merde, le côté boueux. Et vous savez, moi, ce que ça me fait penser, c'est au cale souilleux et puis ce dénégrier. Et je peux vous dire, moi qui ai visité ces centres de rétention, vous voyez des choses de notre monde.
Sur quelle matière vous travaillez alors?
C'est sur une toile. Je la recouvre de différentes matières, de papier journal, de décrets de l'époque, du code noir, de bouts d'objets. J'ai trouvé des menottes, des fils métalliques. Quand on n'en avait pas assez, des menottes pour les autres, comment on les attachait. Des clés, des seringues, des choses. Vous savez, quand l'autre il est excité ou il a un problème psychologique, quand on ne sait pas comment l'enrayer, on va lui balancer une piqûre. Surtout, le côté frappant, Yasmine, de cette chose, c'est surtout au bout d'un moment les traces laissées par les mains et devant l'affaiblissement de ce corps.
Les mains de quelqu'un qui agonise.
Ah voilà, exactement.
Bref, Chuck Wan, vous êtes public ennemi dans les années 90-2000. Ah oui, c'est l'art de l'enchaînement, c'est la radio ça. Bienvenue sur la planète en sol majeur avec Peur d'une autre planète, la planète noire. C'est le titre. Pour dire quoi?
Mais c'est pas moi qui le dis. C'est l'autre qui me dit qu'il a peur d'une planète noire. Et l'autre, je lui réponds à ce moment-là, mais tu as peur d'une planète noire? Et pourquoi tu es venu réveiller le démon noir qui était sagement chez lui en Afrique?
Can't stand it.
Majeur de RFI, Public Enemy, les ennemis publics numéro 1 de la racialisation aux États-Unis. Et je connais quelqu'un qui s'en est fait un t-shirt de graffeur, fièrement guadeloupéen et parisien. C'est Chuck Wan, notre invité en sol majeur, qui depuis quelques années se penche sur les cales des bateaux négriers, sur l'histoire des colonies avec un code noir conçu par Colbert et un destin royal qui en voulait toujours plus, question richesse. Aux Antilles, la richesse était synonyme de sucre.
Et c'est quand la canne à sucre est introduite aux Antilles
que cette culture miraculeusement commence à enrichir les Blancs, que la société de plantation se met en place et qu'il y a nécessité de mettre en place une forme d'apartheid désormais entre Blancs et Noirs, puisque à ce moment-là, la canne à sucre va exiger l'apport de centaines, de dizaines de milliers d'Africains. Donc, le Code noir de 1685 vise à séparer les deux groupes qui étaient jusque-là intermêlés, même si les Noirs étaient en position d'infériorité. Et l'esclavage plantationnaire commence à partir de ce moment-là. Et le Code noir va établir les lois de la société de plantation.
C'est comme carte géographique.
La voix de Raphaël Confiant pour en sol majeur et pour introduire ce Mémorial Act, donc Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage, musée dédié à l'esclavage en Guadeloupe, inauguré, je le rappelle, par le président de la République en 2015. Et vous, Chokwane, vous y exposez dans les collections permanentes du Mémorial.
Oui, j'ai réalisé un peu...
L'histoire en marche.
Oui.
Alors, parce c'est quoi de, quel, bah, de quelle histoire? Il faut synthétiser, alors, mais de quelle histoire, s'agit-il?
De quelle histoire? C'est l'histoire aussi de ce gamin de Pointe-à-Pitre qui a vécu toutes ces histoires de Pointe-à-Pitre à ces différents moments indépendantistes et autres, qui est parti après avoir vu les graffitis des indépendantistes sur le mur à tracer avec les différents matériaux, que ce soit du bois, du charbon ou de la bombe. Et puis,
ça, arrivé, c'est Chokwane.
Oui, voilà. Arrivé à Pointe-à-Pitre, arrivé à Paris, pardon, ensuite, avec le graffiti, le métro et autres. Et le fait de retourner chez soi, de retravailler sur cette partie de l'histoire de ce grand homme qui est le colonel Louis de Relgrès, qui, voyant arriver l'armée napoléonienne représentée par Richepanse sortir du bateau, le quartier qui se situe aujourd'hui dans le port du Gommier, regardant le fort Bembridge et lui demandant de faire descendre tous ces nègres et de les désarmer, ils comprennent tout de suite que ça va finir dans la Méditerranée.
Ils sont venus rétablir l'esclavage.
Et là commence aussi une insurrection calculée, menée et stratégique pour dire non au rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe.
Alors, votre projet plastique à vous, vous l'avez conçu, c'est magnifique, c'est passionnant,
oui,
comme une immersion dans la carte guadeloupéenne de l'époque.
Oui.
Vous y racontez à votre manière les étapes de cette bataille.
Voilà.
Alors, en traitant la chronologie, par exemple, de quelle manière?
Ah ben, en prenant une carte géographique que vous voyez de l'époque, et je l'ai agrandie en 4 mètres par 8. Et cette carte, déjà, vous donne déjà un air colonial. Et ensuite, par là, je décide d'embraser cette carte.
C'est-à-dire...
Quand je dis embraser cette carte, de la mettre à feu et à sang avec la bombe à aérosol. Pendant que je mets à feu et à sang cette carte...
Elle est rouge, cette carte.
Elle est rouge.
Et là, c'est-à-dire que vous sentez éclater finalement les corps qui
alors,
constituent cette histoire.
Alors, je vais vous faire une révélation, Yasmine. J'aurais voulu vivre cette bataille. C'est ce que j'ai dit toujours à mes grands-parents. Je ne sais pas pourquoi, quelque part, en réalisant cette œuvre, j'ai réalisé mon fantasme de vivre cette bataille. Bien sûr, du côté des insurgés, du côté de Delgrès, Ignace et Massetto. Et puis c'est marrant parce que...
C'est-à-dire qu'on vous peut vous imaginer tout petit, minuscule,
oui,
au milieu de cette toile gigantesque.
Oui, bah, complètement, de cette installation artistique même
gigantesque.
Vous
êtes sur le champ de bataille,
oui,
et vous, le graffeur, l'artiste plasticien,
voilà,
vous racontez à votre manière les corps calcinés,
ouais,
les corps démembrés.
L'explosion, la chair, les bouts de membres coupés, déchiquetés, tout ce qu'on vous voulait. Et puis, je n'ai pas voulu m'arrêter à là. Ce qui m'a donné cette idée de continuer encore la mutation de l'œuvre, parce que l'œuvre était à la base que créée pour être au mur. Et du coup, je vais voir les gens du musée, je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. Et l'œuvre a pris le pas sur moi. Et donc, du coup, je fais le constat que nous sommes remis en esclavage quelques mois plus tard, donc à la fin de cette bataille. Le colonel Louis de Delgrès, Jean Ignace, Solitude, Massotto et autres, voyant que leur force s'affaiblissait, que le peuple était pris comme bouclier humain pour les faire capturer et autres, décide de se diriger vers le fort Delgrès, le fort Matouba de l'époque. Et avec le si peu de poudre ou de chair à canon, on pourra dire ça carrément, au lieu que ce soit eux qui servent de chair à canon, ils préfèrent partir en héros, en martyr de la dignité et préparer leur installation. Et devant l'arrivée de la force napoléonienne, puisque dans l'explosion, ils ont été atteints. C'est une façon de le faire comprendre que cette chaleur qui nous habite et cette force qui nous caractérise, on vous la renvoie, mais on part en héros de la dignité et fier de nous.
Alors, au milieu de ces corps démembrés calcinés, il y a évidemment la fameuse déclaration de Delgrès, oui, du 10 mai 1802 qui s'inscrit dans votre œuvre, évidemment, Chequan, oui, avec ce cri célèbre, pour, oui, ceux qui veulent bien avoir de la mémoire, « Vivre libre ou mourir ». D'ailleurs, ça a été présenté le 8 juin dernier à l'UNESCO,
oui, complètement,
en partenariat avec RFI, je vous remercie.
Oui.
Et ce « Vivre libre ou mourir », il a aussi une dimension sonore, puisque vous avez conçu le concept « vinyle connecté ».
Oui, je dirais, spectateur, que allez voir cette œuvre, allez voir ce mémorial, parce qu'il y a une histoire qui est là pour apaiser les âmes, non pas pour revendiquer, non pas pour ressasser dans le côté négatif. Ça, c'est ceux qui n'ont pas envie qu'on s'exprime, qui pensent ainsi. On nous parle du vivre ensemble dans cette France que nous aimons tous, mais il faut savoir aussi faire part à l'histoire de l'autre. Et c'est pour ça que dans la mutation de cette installation artistique, dont la musique a été composée par Maxime Lénique et jouée par Yonick Tromante...
Voilà, alors j'aimerais bien entendre un extrait,
oui,
je vous ai arrêté sur votre champ de bataille, hein, Chequan.
Oui.
Un extrait de cette fameuse déclaration de Delgrès du 10 mai 1802, avec sur nos platines un extrait de votre vinyle connecté.
Quels sont donc ces coups d'autorité dont on nous menace? Veut-on diriger contre nous les baïonnettes de ces braves militaires dont nous aimons à calculer le moment de l'arrivée? Et qui naguère ne les dirigeait que contre les ennemis de la République. Ah, plutôt, si nous en croyons les coups d'autorité déjà frappés au port de la liberté, non donnés par Hugues à la Pointe-à-Pitre, le système d'une mort lente dans les cachots continue à être suivi. Eh bien nous, choisissons de mourir plus promptement. S comme spleen ou saudade. Saudade, Césaria Ivor.
Faut pas vous excuser, hein, Chuck.
Oui, non mais j'excuse le peuple des ignorants. Voilà, exactement.
Vous parlez comme quelqu'un, attention.
Voilà.
Mozart ou Chevalier de Saint-Georges?
Chevalier de Saint-Georges.
Trop facile.
Non, pas trop facile. C'est simplement, nous ne savons pas que danser, nous ne savons pas que courir, nous ne savons pas que sauter, nous savons aussi manier l'arme de la vieille Europe.
Voilà, je rappelle, hein, le Chevalier de, oui, Saint-Georges, escrimeur, violoniste, chef d'orchestre,
voilà, chef d'orchestre
et abolitionniste,
voilà,
du XVIIIe siècle, ne vous en déplaise.
Puis, ne vous en déplaise, la culture de la vieille Europe, maniée par un singe, je peux me permettre de le dire, parce que...
De qui parlez-vous?
Je parle du Chevalier de Saint-Georges, mais
ah
je
bon
parle de moi comme... J'aime,
d'accord,
bien me mettre en dérision aussi. Par exemple, je vais m'appeler négro, mais ça me...
Oui, mais c'est un terme noble.
Voilà, exactement.
Sait,
mais quand
anobli,
je dis,
voilà,
quand je parle avec ce second degré pour dire un singe, je parle du regard de l'autre,
ouais,
bien sûr. Voilà, exactement.
Pointe-à-Pitre ou Dakar?
Alors, moi je dirais Pointe-à-Pitre, sincèrement, parce que c'est mon lieu de naissance. Là où on a été conçu, là où on a été ancré, nous sert de base à l'évolution.
Oui, mais est-ce que l'Afrique est un lieu de renaissance? Parce que vous qui vous décrivez comme une sorte de magma en ébullition,
oui,
j'adore cette image. D'ailleurs,
ouais,
ça ressemble à vos toiles.
Ouais, merci.
Qu'est-ce que vous faites de l'identité africaine, vous qui êtes né dans les Caraïbes, qui vivez à Paris et qui avez des ancêtres nés un peu partout sur le continent?
Yasmine, comme vous avez vu dans mes œuvres et dans mes écrits, l'identité africaine, elle est plus que présente. Et ne serait-ce que dans... Le discours fait à l'UNESCO récemment, c'est « je mets l'identité africaine, et je vais vous dire, l'être humain africain, au centre de mon geste technique, au quotidien
mais
et de ma pensée ».
Est-ce que c'est pas une fabrication, malgré tout, mentale, intellectuelle,
non, pas
etc.
du tout.
J'ai retrouvé une citation de votre chère Marie Scondé, qui disait, peut-être avec provocation d'ailleurs,
oui,
« je ne suis pas une africaine, puisque je suis une guadeloupéenne ».
Oui, alors moi je dirais, je ne suis pas un guadeloupéen, puisque je suis né dans un autre monde en Afrique et transporté dans les Caraïbes.
C'est une fiction en même temps.
Oui, mais c'est une fiction, mais en même temps, cette fiction aussi, c'est ce qui est intéressant, elle nous amène aussi à travailler sur une certaine réalité. Vous savez, c'est comme les mots utilisés par nos politiciens pour nous vendre le vivre ensemble. Et on se dit, le vivre ensemble, c'est une fiction. Si nous, nous ne faisons pas des actions comme le DVD, le vinyle connecté aujourd'hui, vous savez, Yasmine, en deux mots, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir des enfants du monde entier à l'UNESCO avoir des yeux et être joyeux de découvrir une histoire si dure, si sombre, mais en même temps faisant part à se dire « Enfin, on la connaît, que faisons-nous pour avancer ensemble ?»« Vivre ensemble, où es-tu dans ce moment présent ?»
On pourrait dire, Chuck Wan, pour terminer sur ce mémorial acte 1 et 2, que finalement ce vinyle connecté, c'est l'histoire des vaincus, réécrite par les vaincus.
Complètement.
Alors, et peut-être que la seule réponse à toutes ces questions, je sais, vous n'avez pas le temps de tout dire, mais
oui.
Vous savez, c'est une grande loi de la radio,
oui.
On ne peut pas tout dire. La réponse à toutes ces questions d'identité, c'est peut-être la poésie d'un Gontran Damas.
Ah.
Poète métis, blanc, amérindien, noir, très village global finalement, né en Guyane, où il sera député dans les années 50. Et vous, vous avez un poème fiché au cœur de ce Léon Gontran Damas.
Et Black Label pour ne pas changer. Black Label à boire, à quoi bon changer? Sur la terre des parias, un premier homme vint. Sur la terre des parias, un second homme vint. Sur la terre des parias, un troisième homme vint. Depuis, trois fleuves coulent. Trois fleuves coulent dans mes veines. Black Label à boire pour ne pas changer. Black Label à boire, à quoi bon changer? À des milles et des milles, en Paris, 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 Paris l'exil, mon cœur maintient en vie le regret double du tout premier éveil à la beauté du monde. Et du premier nègre mort à la ligne, mort sur la ligne, qui mène encore aux îles de l'aventure, aux îles à la dérive, aux îles de la flibuste, aux îles de la boucane, aux îles de la tortue, aux îles de la mort vive. Black Label à boire pour ne pas changer. Black Label à boire, à quoi bon changer?
Alors vous savez, j'adore Léon Gontran Damas en français, mais alors en créole, je reste un petit peu sur ma frustration. Hein.
Alors.
Mais on n'a pas le temps malgré tout. Ouais.
Alors pour qu'elle ne reste pas sous savant, je vais traduire en créole. En peine là, y immense, y pas jamais fine, y t'est bien ensoleillé, qu'elle a t'est gonflé, bougla t'est fort, l'enma t'est lourde. Et puis, tout là qui a dominé Vilaïla, en bas en coucher de soleil, en les scènes là, depuis ces jours de jour-là, Bouga fini.
Une dernière question, Chuck Wan. Vous qui, peut-être devriez songer d'ailleurs à signer une toile sur cette thématique du sol majeur.
Oui, oui, oui.
Oui.
Mais c'est... Alors je vais vous faire une confidence. C'est en cours.
C'est en cours.
Ben oui,
Est-ce que vous pourriez me faire une confidence sur le work in progress?
Alors le work in progress, il démarre sur une note des premiers mots du code noir dans la cour d'époque.
Qui dit quoi?
Qui dit quoi? Comment devons-nous traiter ces noirs? Et ces mots et ces notes que je mets, c'est par des aigus, des poids pour référencer la lourdeur à leur cheville et à leur taille avec le sens aigu et leur caricature humaine. Et sur toutes ces notes aiguës, il y a des fils, il y a plein de mouvements, d'écriture qui nous rappellent comment ce corps, il a été fouetté. Et tous ces cris, toutes les scarifications. Et c'est tout un ensemble de traits, le sol en majeur et le grave comme clair-obscur.
En sol majeur at rfi.fr.
Au générique de cet en sol majeur consacré à Chuck Wan, un vinyle connecté sorti chez, comment on dit, Unicum.
Unicum Musique. Juste un petit trépin. Le Memorial Act, ce lieu d'apaisement pour les âmes, en étant l'un des privilégiés, puisque je suis né dans ce quartier, j'ai vécu de ce quartier, je suis ambassadeur aussi du Memorial Act et j'en suis fier parce que je suis né à Pointe-à-Pitre. Et voilà, ce lieu aussi dont on voit aussi la fréquentation afro-américaine et du monde entier, c'est un lieu aussi qui demande à être découvert et dont notre prochaine étape après l'UNESCO sera la seconde étape du projet Vivre Libre ou Mourir, sera en Guadeloupe au mois d'octobre prochain.
Je vous remercie. Ce serait pas mal, Bessie Smith, pour se dire à très bientôt.
Oui. Et puis, j'ai dans mon sac une bouteille de rhum.
C'est autre chose, ça.
Oui, mais...
Ou ça va ensemble, peut-être.
Ça va ensemble.
Ah, d'accord.
Ça va ensemble. Ça va ensemble. Voilà. On renie jamais d'où on vient.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis connecté à notre application Pure Radio pour se retrouver en podcast. Bien sûr, derrière le poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve, on vous espère même, la semaine prochaine avec Abdel Alaoui. À la semaine prochaine.